Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
Les mêmes choses, vous pouvez même traduire, parce que je parle pas toutes les langues en étranger, donc...
J'essaie d'apporter des idées, wow. C'est ça qui m'importe, et c'est pour ça que je suis là, à l'Afterfoot, qui est la messe du football.
Jusqu'à minuit, l'Afterfoot...
Nicolas Jamin.
RMC l'Afterfoot, merci d'être avec nous. 23h03, Florent Gautreau est là, Maxime Chano aussi, Daniel Riolo également. Tiens, quelques matchs, les amis, de prépa pour le mondial. On est l'air de rien à 9 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. On sera sur place, vous le savez. Daniel sera là, Flo sera là, Max sera là. Oui, Dacher Chour, Kevin Diaz aussi, Gilbert, bien sûr, pour vous accompagner très tard dans la nuit, tout au long de cette Coupe du Monde qui démarre dans 8 jours désormais. Tiens, la Belgique s'est imposée 2-0 en Croatie. Tillmans, Lukaku sont les buteurs. On a également le Maroc qui a battu Madagascar 4-0 avec la première comme titulaire, d'Ayoub Bouadi, le Lillois, avec un doublé de Saïbari ce soir pour les Lions de l'Atlas. Un partout entre le Pays de Galles et le Ghana, et puis un partout entre la Géorgie et la Roumanie. Voilà pour les matchs du soir. Le tennis Roland-Garros, Daniel se prend la tête.
C'est franchement
suspense,
c'est
énorme.
Fin de match, elle est démente.
Mensik Fonseca, Eric Salio.
Fabuleux ce match avec trois balles de match sauvées par João Fonseca, mais la quatrième arrive dans quelques instants parce que Mensik fait des miracles. Il frappe très fort, il a aussi une main extraordinaire à l'image de cette contre-amortie qui a pris de vitesse.
Mais j'arrive pas à le voir fort, ce Mensik, Eric.
Ouais, bah, viens ici, tu verras la diff. Oh, volée amortie magnifique de Fonseca sur la numéro 4. Alors là, passez-moi l'expression, c'est couillu parce que service volé amorti,
c'est extraordinaire.
Wow. 4 de sauvés. 4 de sauvé, 2-7-0-6-4-6-3. On est à 6-5, 40 ans, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Et si jamais Fonseca prend ce jeu, il prend le tie-break derrière, ouais, et on va au bout de la nuit.
Il a servi pour le 7, attention, il faut le dire.
Ouais, mais il s'est fait reprendre. Parce que l'autre tourne incroyablement bien. Est-ce qu'il y aura une cinquième occasion?
Mais j'arrive pas à le voir bon, ce Mensik, qui fait quoi de bien?
C'est un bloc, c'est un monolithe, quoi.
Je vois pas ce qu'il fait de bien.
Tradition tchèque, quoi.
C'est balle de match à venir. Balle de match. La cinquième à venir.
Oh là, il va finir
par la faute en revers.
Direct, revers.
Bon, Eric, tu nous préviens, c'est terminé.
Non, attends, c'est la bonne, là.
Vas-y,
approche-toi.
Nico,
c'est
Mensik,
Fonseca. On a un
but
avec nous, là.
Hier, c'est joli ce que t'as fait hier. Hein.
Pour quel match?
Ouais, tu sais très bien.
1h15, Zabalenka contre 1h15, Osaka.
Bravo la Nike.
La numéro 5. Allez, service.
On voit que tu pèses pas trop près d'Amélie. Hein.
Vas-y.
Ouais, il appuie fort avec son coup droit. Fonseca est sauvé.
Mais non,
voilà pourquoi. De sauver.
Ouais. Alors, c'est quoi, Eric? Tu nous tiens au courant? C'est encore une fois de match.
La fin de match, elle est folle. Bon, s'il s'en sort, c'est un délire.
Ok, on l'a compris. Notre invité qu'on accueille après Daniel Perrinel, un grand visage de l'arbitrage français.
Ah oui.
Il s'arrêtait juste avant le début de l'after. Il a eu la chance en 2005.
Bah non, pourquoi il a eu la chance?
On
aurait pu dire que c'était le numéro 1 de l'arbitrage, comme on a fait avec les Turpin après.
On défend les
enfin un classement des surtout, des numéros 1. Et surtout, c'est vrai, il va falloir lui dire ça en ouverture. Bon, d'abord, bonsoir, monsieur Vessière.
Bonsoir, monsieur Vessière.
On s'est toujours revendiqué comme l'émission qui a défendu les arbitres.
Bien sûr.
Tout le temps. On ne supportait pas les dirigeants qui passaient leur temps à expliquer leur défaite par le biais de l'arbitrage.
Je vous l'accorde et vous aviez raison.
Merci, monsieur.
On l'a redit hier à Olivier Létang. J'ai l'impression que vous êtes. Là, je vois certains livres, qui s'appelle Monsieur l'Arbitre, autobiographie, Gilles Vessière, édition Vaillant. Là, je vous vois en vrai. Vous êtes plus fit que quand vous étiez arbitre, j'ai l'impression.
Comment c'est possible?
C'est pas impossible.
Après, j'avais de la mauvaise habitude d'arbitrer avec beaucoup de couches dessous.
Ah, d'accord.
C'était
les épaisseurs. C'est pas le vice, c'est les épaisseurs.
Il y avait de l'épaisseur.
Bravo, Nico. Bravo, bel accueil.
Il y avait de l'épaisseur. Donc, vous voyez, je fais un revers, fais un retour, moi.
Si j'y vais, on sait que Gilles Vessière est un gros caractère parmi les arbitres également. On va en parler, personnalité très affirmée. On parlera de Luis Fernandez aussi, inévitablement.
Et le fameux parking était chambreur sur le terrain.
Oui, j'étais chambreur.
Est-ce que les joueurs vont reprocher d'être chambreur?
Non, certains joueurs. Parce que je préfère chambrer que mettre un carton. Je suis l'arbitre qui a mis le moins de cartons en matière de contestation. Parce que je partais du principe que mettre un carton jaune à un joueur, tu punissais toute l'équipe pour contestation. Après, il y a un tirage à maillot ou quoi que ce soit, il se retrouvait à 10. Et à partir de là, ça déséquilibrait complètement le match.
Ça veut dire quoi, chambrer?
Bah, ça veut dire que quand il venait me chercher parce que j'avais loupé un coup franc ou un corner, je lui disais que tout à l'heure il avait loupé le cadre alors qu'il était à 5 mètres du but. Et que moi j'étais pas venu lui taper sur l'épaule pour dire il faudrait peut-être me faire plat du pied ou avancer ou quoi que ce soit. Et je préférais.
Tu l'aurais bien pris, Max, sur le terrain, l'arbitre.
Ah oui,
dit ça.
Max, oui, aurait... bah, tu me connais. C'est dur à prendre, mais je suis un ancien joueur, monsieur l'arbitre.
Peut-être que vous avez arbitré le match.
Maintenant, 95. Ah non, 2005, pardon.
Je sors en 2005.
Ouais, moi je commence en 2006.
Non, ça parle bien.
Ouais. Attends, alors, juste une petite question. Je mets les pieds dans le plat parce que vous parliez que vous étiez chambreur.
N'hésitez pas.
Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé d'insulter des joueurs?
Jamais.
Ah, non.
Jamais.
Non.
Ah bah tu serais très étonné. Tu serais très très étonné. J'ai joué les deux dernières années en Ligue 2 et j'ai eu quelques. Alors on peut parler d'arbitre étranger.
Vraiment la grosse insulte.
Ah, on y va sur les maires et compagnie. Ouais,
mais non.
Je peux te jurer.
Ah bah vas-y, donne-moi un nom.
Allez, sors.
Sors les Weibos sur la table. Qui t'a dit ça?
Laisse-moi regarder sur Google. Je vais trouver Allo Faciès. Écoute-moi. Non. Monsieur l'arbitre, je vous assure, et c'est arrivé plus d'une fois. Alors ça m'arrive de taquiner les arbitres. Et en réponse, j'ai eu le droit des noms d'oiseaux qui étaient quand même très moyens pour ma mère.
Des surpris, Gilles Vessière, ou pas? Ça, vous savez que certains collègues, confrères
Ça me surprend. Ah bon. Après, il peut tomber sur des arbitres en bout de ligne, en deuxième division. Donc, les garçons, ils ont peut-être au fond d'eux-mêmes un peu de rancœur et ils se lâchent. Je pense que c'est plutôt ce style d'arbitre que vous avez rencontré parce qu'un jeune prometteur, il ne se mettrait pas dedans.
Bon, je rappelle votre carrière quand même pour les plus jeunes.
Oui, rappelons, parce que c'était un arbitre important à son époque.
Majeur de notre Ligue 1, bien sûr. 15 années au plus haut niveau, professionnel, 90-2005.
15 années, c'est le max qu'on peut faire?
J'ai 45 ans.
Non, c'était la limite d'âge, 45
oui,
ans.
Oui, non, mais c'était sortait. Le max. Vous avez fait le max.
Ah oui, j'ai fait le max.
Au niveau.
J'arrive en 90. J'arrive
vous pouvez démarrer 90. Plus tôt dans l'absolu. On peut démarrer à 28 ans.
Oui, mais comme j'explique dans le livre, moi, j'ai perdu du temps parce que j'étais un peu hors norme, un peu trop impétueux. Et j'explique les situations compliquées que j'ai rencontrées dans ma carrière et sur lesquelles je m'en suis sorti avec des fois de la chance, des fois le destin. Mais c'était pas simple de sortir quand on arrive trop jeune. Moi, je suis arrivé à 14 ans. À 14 ans, à l'époque, dans les années 70, on jouait au ballon. Il n'y avait pas d'arbitre. Oui, ça n'existait pas, des jeunes arbitres.
Vous observez un match d'amis. On vous dit, alors c'est chaud sur le terrain. On vous dit, Gilles, vous êtes jeune, viens arbitrer. Tu vas comprendre ce que c'est. Tu parles trop sur le terrain.
Non, c'est pire que ça. C'est que mon côté chambreur était déjà là, puisque tous les samedis avec mon voisin et ami de club, on descendait jouer sur le terrain annexe au stade du Ré qui s'appelait le stade Gorbella. Et à partir de là, on jouait. Et puis j'ai vu passer mon entraîneur des minimes de l'OGC Nice où je jouais, qui jouait dans une équipe corporative, en l'occurrence le Crédit Agricole, sur le grand terrain de Gorbella. Et j'ai dit à Luc, j'ai dit viens, il est tout le temps en train de nous chauffer, on va aller sur la butte et quand il va se louper, on va lui dire ce qu'on pense de son pied droit et de son pied gauche. Donc on est allé là-dessus et on s'est assis sur la butte. Et quand on s'est retrouvé sur la butte, au bout de 5 minutes, il y a eu bagarre générale.
Oui.
Ils se sont mis sur la gueule. Alors moi j'ai dit à Luc, j'ai dit viens, on se casse, ça sent pas bon, on n'a rien fait.
Là on vous rattrape.
Et donc on part et j'ai dit mais pourquoi ils se battent? Il m'a dit mais t'as pas vu, c'est le libéro de l'équipe adverse qui a le sifflet, il siffle tout pour eux. Donc les autres, ils se sont mis dessus.
Mais si on les a tous fait les matchs au niveau amateur où c'est le père ou l'oncle de machin qui fait la touche.
Ouais, non, t'as
c'est ça, avec le chef de garde, tu fais que lever.
Quel t-shirt.
Voilà, la vocation commence comme ça. Alors, premier match, ça c'est intéressant, à la Mosson, chez Loulou Nicolin. On est en 90, Montpellier-Toulouse, d'un côté Valderrama, de l'autre Beto Marsico.
Ouais.
Laurent Blanc à Montpellier.
Ouais.
Premier carton jaune de Gilles Vessière. Vous allez me dire si ce nom vous dit quelque chose, évidemment, moi ça je me rappelle. Jean-Manuel Tétis.
Bien sûr.
Jean-Manuel, je vais te dire, j'allais en vacances à la Grande Motte et je le croisais souvent au casino de la Grande Motte.
Tu l'appelais Jean-Manuel,
ouais,
Jean-Marc.
Je connaissais. Ouais. Voilà.
Jean-Manuel Tétis.
Vous expliquez
la Grande Motte.
Auprès de Laurent Blanc à l'époque, qui est capitaine. Hein. C'est Laurent Blanc, vous allez vous justifier auprès de Laurent Blanc. C'est ça. On est en 90.
On est en 90, à l'époque, pour sortir un joueur, il faut un coup de hache, quoi. Il n'y a pas de carton rouge.
C'est vrai.
Il faut s'en souvenir.
Il fallait un coup de hache pour qu'on sorte un joueur, quoi. On n'avait pas cette culture de la sévérité. C'était compliqué pour les attaquants. Hein. D'où le problème Van Basten qui va arriver. Et j'arbitre ce match-là, donc c'est mon premier match. 48e minute. Donc j'ai 48 minutes de D1. Je donne un coup franc sur le côté gauche et carton jaune à Tétis. Et j'appelle Laurent Blanc. Je dis, s'il me refait le même, il sort. Et Laurent Blanc me dit, monsieur Vessière, vous arrivez en première division, il va falloir apprendre, rester calme. J'ai dit, écoutez, Laurent Blanc, moi j'arrive, mais je veux rester. Mais lui, s'il continue, il sort. le ballon, le coup franc est tiré, il rentre dans la surface de réparation, dégagé par Montpellier, je me déplace, et sur le côté gauche, raf, un gros tacle assassin côté d'un gars de Montpellier, je me rapproche, mon numéro 4 Tétis, donc rouge. Et là, j'ai tout Montpellier qui vient sur moi, parce qu'à l'époque, quand tu mettais un rouge, il y avait la,
oui,
y avait la horde sauvage. Et là, je leur dis, les gars, vous débrouillez avec Laurent Blanc, j'ai tout expliqué avant. Et Blanc est arrivé devant, il a dit, foutez-lui la paix, j'aurais dû le dire à Tétis, il m'avait dit avant.
C'est
mon premier match.
Belle preuve de pédagogie avant.
Non, mais ce qui est vrai, c'est
prémuni avant de.
Ce qui est dur, c'est que dans les années où Gilles Vessière a arbitre, comme il le dit, il n'y a pas l'habitude encore d'être protéger les joueurs à ce point, au point d'aujourd'hui, il y a aussi des joueurs très très durs et très physiques derrière. Ouais. Non, il y a des chats, mais Jean-Manuel Tétis, c'était quelqu'un de dur. Ouais. On a parlé l'autre jour des gars là, Martigues, Pounevatchi, les histoires. À chaque fois, il y avait des défenseurs qui étaient là pour cartonner.
Puisque vous l'avez évoqué juste avant, là, le, je sais pas ce qu'on appelle ça, la jurisprudence, le cas Van Basten, qui a changé l'arbitrage.
Tout à fait. Le tacle par derrière, après que Van Basten ait été le cas le plus important, parce qu'il a eu X blessures, et ils ont été obligés de modifier le sur la Coupe du Monde 94. Et on attaque 94-95, donc l'année 95, et là je me retrouve avec le match au sommet entre Nantes et le Paris Saint-Germain. On n'a pas encore eu de ce fameux carton rouge pour un tacle par derrière, ce premier carton rouge. Et malheureusement pour moi, puisque je suis de l'OGC Nice et celui que je vais expulser était un ancien de l'OGC Nice, c'est sur Jaffet Tendoram, c'est Daniel Bravo qui tacle par derrière au Parc des Princes sur le match au sommet pour le titre. Et je mets le carton rouge directement. Et là-dessus, ça a fait une polémique d'un autre nom, parce que ils ne comprenaient pas qu'on pouvait d'ores et déjà sanctionner. C'était nouveau, mais c'était, je pense, le bon choix.
Et finalement, c'est rentré dans les mœurs maintenant, le tac par derrière.
C'est effectivement une grande évolution. Une grande évolution de l'arbitrage.
Ça voudrait dire que peut-être ce qui est en ce moment un petit peu compliqué avec la VAR, peut-être que dans 10-15 ans. Et eh ben au même titre que le tac par derrière, ça va rentrer dans les mœurs et finalement
on parlera de votre avis sur l'assistance vidéo, on en parlera aussi.
Il y a une adaptation importante parce qu'en plus JVC a connu le 92, la passe en retrait au gardien, etc. Il y a des changements de règles qui sont capitaux pour les arbitres. Ouais. Mais justement, moi je vais faire un lien avec ce qu'on a vécu en finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu l'arbitrage de la finale. Moi il y a un truc qui me paraît important et j'étais à fond là-dessus, c'est le gain de temps, les problèmes de gain de temps. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de règles, on va en voir des nouvelles d'ailleurs
à l'occasion de la Coupe du Monde. On en parlera tout à l'heure.
Et j'ai trouvé moi plutôt bien ce qu'a fait l'arbitre, puisqu'on a vu qu'Arsenal était dans cette logique du gain de temps. On savait qu'en temps effectif, Arsenal avait le moins de temps effectif des équipes. Tout ça, les arbitres le savent aussi. Et ce qu'il a fait sur le corner de la fin de première période, finalement, en voyant que Saka voulait encore gagner du temps, en lui disant bon, bah, stop, dans ce cas-là, il n'y a plus de corner, tout le monde au vestiaire. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose dans le caractère, au moins, que vous auriez pu faire?
Non, moi, je suis pas. Je vous accorde crédit à vos propos et c'est bien en 2026, mais je ne suis pas d'accord sur comme beaucoup de choses. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était un livre autobiographique, oui, dans les deux premières parties, mais après, je rentre un petit peu dans le dur et j'ai le courage de dire ce qui n'a jamais été dit. Moi, je l'ai dit sur un très bel article, et je remercie Eric Galliano de ce matin qui a eu le courage de bien l'écrire. Pour moi, aujourd'hui, ce livre, ce qui est important, c'est que j'ai eu envie, à un moment donné, j'ai entendu trop de conneries et j'ai eu envie de donner un peu la main aux journalistes.
C'est-à-dire trop de conneries?
Ben, j'entends trop de conneries parce que c'est le café du commerce quand vous allez. Non, mais partout, dans n'importe quel journal, dans n'importe quel.
Sur quel thème, par exemple, exemple.
Ils sont tous entraîneurs, ils sont tous arbitres, mais il y a aucun travail derrière. Alors je me suis dit, la corruption. Parlant de la corruption, oui, il y a eu corruption. Je le dis, j'explique comment certains matchs ont dérivé.
Dans le foot, en Ligue 1
En Ligue des Champions.
En Ligue des Champions,
je l'explique dans les matchs, comment des matchs ont dérivé.
Mais... Bah, expliquez, parce que les gens qui nous écoutent, là, ils sont tentés, ils iront acheter le livre, mais on a envie de savoir. Bon,
vous allez répondre à Faro. Mais là, quand même, vous avez un petit peu chauffé sur la corruption, c'est important, vous en parlez dans le bouquin.
Non, mais je voudrais revenir, parce que sa question était très intéressante. Vous avez raison, vous avez raison sur la forme, mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que. On a tout dans les 17 lois du jeu. Et notamment, je le dis dès l'introduction de mon livre, on a ce fameux pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire, c'est à l'arbitre par rapport à ce qu'il sent, ce qu'il voit. Donc, s'il le fait à la mi-temps, je ne suis pas d'accord. C'est comme ce fameux carton jaune que tu mets au gardien à la 88e alors qu'il perd du temps depuis la 5e, la 6e ou la 7e parce qu'il mène à 0.
Donc, il l'a fait trop tard. Il leur a dit trop tard.
Bien sûr. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est qu'à un moment donné, si tu veux soigner, commence par soigner d'entrée dans le premier quart d'heure, quitte à prendre des risques. Il faut avoir le courage. On a tout dans les lois du jeu. Et on le voit sur ce qui est en train d'arriver. Regardez.
Gilles Vessière, je vous coupe, désolé, balle de match à Roland Garros. C'est Eric Salio.
Balle de match à numéro 7 pour Mencik. Il tente une amortie. Ouais, Fonseca, il pourra pas y aller aussi, mais en deux temps, mais Mencik va le surprendre sur une contre-amortie. Magnifique victoire de Jakub Mensik, 6-4, 6-3, 7-6. Il est en demi-finale de Roland-Garros où l'attend Sacha Zverev. Ce sera vendredi. Ils se sont joués le 28 avril à Madrid, les deux. Ça avait fait 6-4, 6-7, 6-3 pour Zverev. Ça peut être un beau match.
On verra ça. En tout cas, parce que là, le niveau de Mensik, waouh, chapeau. Hein.
Si Mensik gagne Roland-Garros, on l'a celle-là.
Je suis tellement déçu pour Joao.
Tout à fait. Mais il est jeune encore, 19 ans, Joao Fonseca. Bonne soirée à toi, Eric. Dans un instant,
ciao, ciao. Corda Muster, tout ça, là.
Ah oui, ouais,
Maître Corda, Thomas Muster. Les gros vainqueurs, les gros noms, et puis ouais, t'as un mec qui va.
La première de Bruguera,
qui prend la faille.
Il y a encore Zverev quand même.
Ah, Zverev.
Qui est plus que jamais le grand favori quand même. Qui déroule.
Et Berrettini.
Moi, je vois Mensik sortir Zverev.
Oh,
ah bon, ouais. On verra. Dans un instant, on est avec Gilles Vessier, arbitre de Ligue 1, de 2 euros également, je ne l'ai pas dit, une Coupe du Monde en 2002, Corée du Sud. On parlera corruption, vous en parlez dans votre livre également. Vous n'avez jamais été approché, mais vous avez quelques éléments à nous donner ce soir. Reste avec nous, la suite de l'after dans un instant sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Maxime Chano, Daniel Riolo, Florent Gautreau et notre invité Gilles Vessier, arbitre professionnel pendant 15 ans, 2 euros, une Coupe du Monde.
Moi, je suis amateur jusqu'à la fin de ma carrière. C'est ça que vous oubliez de dire et qui est très important.
Oui, il y a des...
J'ai un statut arbitre.
Oui, mais à l'époque, il y a des dédommagements qui sont importants quand même.
Je fais mon premier match de première division, comme j'explique dans le livre. Je touche 90 euros.
Non,
à 90 euros, je peux chambrer.
En 90,
mais à la fin. À la fin, je gagne 1500 euros par match.
C'est vrai? Je pensais que c'était plus.
Et oui, 1500 euros par match. Je veux dire, le statut amateur, ce n'est pas une question. Je loue les arbitres qui ont obtenu un statut et qui ont pris l'ascenseur social. Mais le statut amateur nous a permis. Notre libre arbitre qui, comme je le dis dans le livre, aujourd'hui, si les arbitres sont des fois pas si performants, c'est parce qu'ils ont perdu leur libre arbitre.
Comment ça, ils ont perdu leur libre arbitre?
Ils ont perdu leur libre arbitre parce qu'on leur demande d'être des petits robots, on leur demande d'être uniformisés, on leur demande de ne pas parler, on demande de ne pas répondre.
La sanction, s'ils font pas six,
vous avez commencé.
Il faut qu'on s'arrête là-dessus deux minutes parce que ça, c'est intéressant, ça, le côté les arbitres qui sont devenus des petits robots. Comment, expliquez-nous ça.
Moi, je trouve la robotisation de l'arbitrage. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, on leur demande d'arbitrer uniformément à Lorient, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, alors qu'on peut pas arbitrer uniformément.
C'est-à-dire.
Pourtant, les gens disent tous ça qu'il faut que la décision du dimanche dans Lorient-Nice ce soit la même que Lorient-Rennes la semaine d'après.
Moi, Gilles Vessier, juste un point. J'aime beaucoup ça parce que il y a souvent des gens qui disent sur le même match la semaine dernière c'était la même faute. Or, ça n'est jamais la même faute.
Exactement.
D'accord. Je n'en peux plus.
Exactement. Moi, j'ai la chance de commenter les matchs et je peux vous dire que sur la même situation, week-end après week-end, c'est des décisions différentes.
Non, parce que c'est pas un problème.
Mais ce que je disais à Gilles Vessier, c'est, et ce que j'ai dit dans l'after toute l'année, ce que tu dis, la même situation, ça n'est jamais exactement la même.
Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je le répète, on n'arbitre pas j'ai cité un Bastia Bordeaux parce que c'était ma période, mais je peux citer pour les matchs que j'ai vus, on n'arbitre pas pareil aujourd'hui un Marseille-Lyon que ce qu'on va arbitrer un Lorient-Metz.
Et alors pourquoi?
Ça veut dire quoi?
Parce que d'abord la qualité du joueur en présence, l'importance du jeu et donc la pression. Moi, avant de rentrer chaque match, je mettais une échelle sur 10, quel niveau d'intensité je pouvais laisser monter le match, à 6, à 7, à 5, à partir de quand je ne tolérais plus rien, que ça soit quand je faisais un Milan AC Inter de Milan ou un Real Madrid Manchester.
C'est-à-dire vous tolérez plus rien, c'est-à-dire quoi?
Oui, de plus tolérer le fait que ce que j'ai donné comme possibilité d'investissement dans le physique, dans le truc, à ce moment-là, je passais au carton. Systématiquement, je basculais au carton. Mais les joueurs venaient avec moi parce que vous laissez les micros fautes, parce que vous les laissez jouer, parce que par la voix vous les accompagnez. Jouez les gars, pas de fautes.
Oui, pourquoi si le niveau est élevé, on n'arbitre pas pareil? Parce que par exemple, Lorient-Nice, un match, et les mecs peuvent dire pourquoi nous on doit être arbitrés différemment? On est merdeux.
Je m'exprime peut-être pas comme vous le souhaitez, mais mon impact n'est pas le même. Le match n'est pas le même, la vitesse n'est pas la même, l'ambiance n'est pas la même, et tous ces ingrédients font que ce n'est pas le même match.
Ça, c'est le côté humain de l'arbitre que vous soulignez. Moi, j'adore ça parce que nous, on prône cet arbitrage humain et pas robotisé.
C'est exactement cela. On a un côté humain où l'emprise n'est pas la même.
Chaque match a une personnalité, en fait. Et il faut s'adapter à la personnalité du match.
Et c'est ça qui est important. Et cet arbitrage moderne qu'on nous met aujourd'hui, il n'arrive pas à s'adapter à des matchs différents. On leur demande d'arbitrer pareil PSG-OM. Moi, vous savez, je me suis beaucoup moqué, entre guillemets, en stage au gars. Je dis, oh, vous, parce que je ne pouvais pas arbitrer l'OM jusqu'aux trois dernières
saisons.
Parce que
vous faisiez partie de la Ligue Méditerranée.
Parce que je faisais partie de la Ligue Méditerranée. Je leur dis, oh, vous n'allez pas m'emmerder pour un PSG-OM. Excusez-moi, j'étais cru là. Mais je leur disais aux gars en stage, je leur dis, vous n'allez pas m'emmerder pour un PSG-OM. Moi, j'ai fait un Galatasaray Juventus et je l'ai motivé et tout. Mais tu verras le jour, si un jour tu le fais, tu verras que ce n'est pas si simple. Et j'ai donc fait, à la fin de carrière, bon, j'ai commencé à faire Marseille, j'ai fait ce PSG-OM 2024 avec le retour de Fiorez au Parc des Princes et le carton
2004.
C'est vous qui le faites, celui-là?
C'est moi qui
le fais. Le but de Paoletta,
extraordinaire.
Bah ouais, frappe de si c'est plein de lucarnes, magnifique. Et 7 novembre 2004.
Je peux vous garantir quand
vous mettez un rouge assez rarement.
Ouais, à la 19e, ouais. C'est-à-dire que par derrière sur Fiorez. Et donc quand je suis rentré dans les couloirs, quand j'ai vu les gars, quand j'ai vu tout ça, j'avais pourtant de la bouteille, j'étais un an de la quille. Je peux vous garantir que
à l'aller, avant le match, vous voulez dire
avant le match,
le couloir avant le match. Vous avez senti la tension.
Ah ouais, j'ai senti la tension. C'était pas le même match.
Et comment vous l'avez senti?
C'est un des plus beaux PSG-OM. C'est un des plus beaux avec les banderoles sur DU et Fiorez.
Allez-y, Gévessière. Comment vous le sentez dans le couloir avant l'entrée là?
La tête des gars, même les dirigeants, tout le monde est fermé, les joueurs sont fermés, tout le monde, le gardien de la porte, tout le monde. On sent une atmosphère, une chape. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et quand vous rentrez dans ce match-là, vous rentrez pas dans le même match parce que on l'oublie souvent. Et moi, je veux le dire ici parce que j'ai pas toujours été gâté avec le Paris Saint-Germain. Dans ma carrière, ça m'a pas toujours réussi à une certaine période notamment. Parc des Princes, c'est quelque chose quand même. Hein. Le public du Parc des Princes, l'ambiance, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. On nous dit, c'est bien Lens, c'est bien Saint-Étienne, c'est bien Marseille.
Parce que du coup, le Vélodrome, vous avez jamais arbitré?
Oui, j'ai arbitré.
Sur
les deux dernières années, j'étais numéro un français et qu'il y avait des gros matchs, ils avaient décidé de faire tomber cette barrière-là pour que je puisse arbitrer l'OM.
Vous avez mis à l'abri d'un certain Bernard Tapie. Hein. Dans le livre, vous le racontez quand même. Dans les premières années, au moins, dans les 90, comme vous faites partie de la Ligue Méditerranée, vous pouvez pas arbitrer les matchs de Marseille.
Ouais.
C'est intéressant. Alors,
ça évitait des coups de pression, alors?
Ben, j'en ai
pris. Il vous en a mis un, Bernard Tapie,
j'en ai pris
sur un Istres-Marseille, je crois.
Ouais, en Coupe de France, tout à fait.
Fin de match, c'était chaud, vous avez mis un carton à Deschamps.
C'est ça.
Il vient vous voir après le match et vous dit, tu le retires, le carton. Ouais. Tu le retires tout de suite du rapport.
Tout à fait.
Alors que tout le monde l'a vu, le carton jaune.
Et moi, je lui ai montré où était la porte, un peu violemment, et j'ai fait un rapport qui est jamais arrivé à
le délégué. C'est ça. Et le problème, c'est que le délégué du match, il vous a contredit dans sa version, quoi.
Ah, bah, il me dit, tu as raison, on va y aller, je marche comme toi. Et quand je me suis retrouvé en commission, le délégué dit, ah, mais non, il n'est pas rentré dans le vestiaire.
mais vous avez parlé avec les collègues de l'époque qui subissaient la pression de l'OM de Tapie, parce que bon, on les connaît, les histoires maintenant.
Bien sûr.
Alors, puisqu'on parle de
et
ça.
Et on pouvait rien faire.
Ah, il était vraiment, vraiment. Allez, on va le dire comme on doit le dire. Il était vraiment protégé, quoi. C'est clair.
Ah oui, ça, il était protégé. Oui, ça, il était protégé. Bah, quand le président de la République en direct un 14 juillet dit que vous êtes formidable, oui, on sait qu'il était protégé.
Jean-Michel Aulas, vous êtes laudateur. Vous adorez Jean-Michel Aulas. Vous en parlez dans votre bouquin. Bon, comme on est tous d'accord pour dire, c'est un des plus grands présidents de club français, bien sûr. Mais sa courtoisie, le rapport que vous avez avec lui humainement, c'était le top.
Vous avez un bon rapport.
Pourtant, lui, c'est un homme qui venait dans les vestiaires après les matchs, hein, mettre la pression sur les arbitres. Donc,
ouais, mais je parle de beaucoup de choses. Je parle de Jean-Michel Aulas parce que pour moi, j'ai vu Aulas progresser. Et moi, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même, à l'époque où j'arbitre, c'est la 7e fortune de France. Il a une réussite extraordinaire. Mm-hmm. Il mérite un grand respect. Il prend Lyon en D2 à la rue. Et trois ans après, non seulement il est fait monter, mais quatre ans après, il est en Coupe d'Europe. Moi, j'ai toujours observé la performance avec un centre de formation remarquable, avec une volonté des jeunes joueurs à aller à Lyon. Donc, j'ai regardé ça. Mais moi, j'ai
C'est-à-dire que l'arbitre sait ce qui se passe dans le monde du foot, il peut aimer ou pas aimer des gens, mine de rien. Mais on a presque l'impression que l'arbitre, normalement, il peut pas avoir ce genre de sentiment.
Mais c'est la force que nous avions en étant amateurs. En étant amateur, je vous ai dit tout à l'heure, on avait le droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir dire, de pouvoir rentrer avec un quart d'heure de retard parce qu'on estimait qu'on n'était pas content. On pouvait donc manifester entre guillemets une petite grève. On avait toutes les possibilités avec ce statut-là. On avait le statut effectivement d'être des parties prenantes de notre passion, parce que nous on défendait notre passion. Dès l'instant où le beefsteak il n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, on pouvait d'abord on défendait la passion et surtout l'éthique et
c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure qui correspond à ça, on a des arbitres dont on se dit parfois. Ouais, il aurait pu siffler, mais là, en fait, ça va lui être reproché dans le rapport, donc il va perdre des points, donc il se dit qu'il faut pas le faire, donc ils sont dans une logique très bureaucratique, quoi.
Bah, je le dis dans le livre, et je suis très sévère, mais de toute manière, il faut bien que quelqu'un le dise, et il fallait que ça soit moi, parce que personne ne le dira, mais la notation aujourd'hui, elle est chaotique, et les pauvres arbitres, ils sont dans une situation. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous avons 9 matchs de première division, et seuls 4 contrôleurs se déplaceront. Les 5 autres seront contrôlés par vidéo. Ouais, donc c'est pas
comment vous pouvez contrôler un joueur
bien sûr, par vidéo, c'est vraiment une vue périphérique du match.
L'ambiance et tout. Et alors, ce garçon finit un match où il espère avoir fait un bon match, il a peut-être des bons retours des clubs, peut-être des bons retours des joueurs, une bonne ambiance, tout s'est bien passé. J'explique par exemple mon Milan AC Inter de Milan en demi-finale de Coupe d'Europe où j'ai vécu cela. Et 48 heures après, le responsable de l'arbitrage a regardé la vidéo, il dit bah écoute, bah moi il y a la 17e ou la 28e ou la 32e et le gars d'un satisfait site, il se retrouve avec un coup de mal-être et de pression.
Et d'ailleurs, on l'a vu dans le classement là des arbitres de Ligue 1, il y a des trucs très surprenants. Enfin dans ceux qui descendent notamment, on a été très surpris.
En tout cas, vous pourrez pas m'enlever l'idée qu'il y a certains arbitres quand même qui ont une certaine sympathie avec certains clubs. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais à Ajaccio. Et c'est vrai que certains arbitres sont. Mais je vais regarder encore sur le.
Ah, mais comment ça fait des recherches, Max? C'est intéressant. D'ailleurs, vous évoquez ça.
Sérieusement, c'est important. C'est que t'as certains arbitres qui sont un peu mieux reçus que d'autres. Alors, peut-être que c'était pas votre cas.
Vous allez plus loin, Gilles Vessière. Vous racontez, la partie émotionnelle du cerveau, bien sûr. Pour justifier parfois les décisions qui peuvent être subjectives. Pendant un match, vous dites, durant toute ma carrière, à chaque fois que j'ai douté sur un coup franc, un corner ou une action disputée, mon bras partait presque automatiquement contre l'équipe indisciplinée.
Ouais.
Ça veut dire rien doute. Allez, eux, trop de fautes, trop de nervosité, je les sanctionne.
Vous savez, ce livre, quand j'ai pris la décision de le faire, d'abord, ça partait de toutes les questions qu'on me posait au café du coin, en buvant un coup avec les collègues ou quoi que ce soit. Et on me disait toujours, ouais, mais il y a des équipes que tu préfères, il y a des équipes qui sont favorites, il y a des équipes que tu avantages. Et ça, je l'ai entendu souvent. Et je me suis dit, ils ont pas tort de me dire ça, parce que c'est vrai que souvent, quand je réanalysais, parce que j'ai quand même beaucoup bossé sur ce bouquin, et je me dis, mais mince, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je suis allé chercher sur le cerveau affectif, le troisième cerveau, le cerveau affectif, qui explique que déjà 60% de nos décisions, 60% de ce que nous prenons au quotidien, c'est positif, c'est très très positif.
C'est lié à l'affect.
C'est lié à l'affect et on avance là-dedans. Et je me suis dit, j'arbitre un match, j'ai d'un côté une équipe super cool avec des gars qui me respectent, qui posent le ballon et tout, et de l'autre côté j'ai une équipe qui me gonfle, qui me truque, et ça monte à l'intérieur. Et quand vous avez le doute... Bah, systématiquement ça part contre l'équipe.
Ça peut aider les joueurs un peu faillots qui viennent toujours à l'arbitre, mais la
main. Vous n'avez pas resté froid par rapport à ça,
Nico, ça...
Non,
vous n'avez pas resté froid par rapport à ça, parce qu'une décision tellement importante, elle n'est pas là pour sanctionner un comportement général.
Non, parce que à un moment donné, c'est pas moi qui le décide, c'est là-haut que ça se décide. C'est parce que vous savez, un arbitre, comme je l'explique dans un match, un arbitre il prend 80 décisions ou non décisions, 80 en moyenne. Dans un match normal, vous allez siffler 25 fois. C'est-à-dire que vous avez tout le temps, vous êtes là, j'y vais pas. C'est toujours comme ça. Est-ce que le cerveau te dit à la main, monte et siffle parce qu'il y a faute ou pas? Donc c'est quand même quelque chose, c'est très très difficile. Si là-dedans vous m'envoyez des parasites parce qu'il est en train de contester tous les 10 minutes, tous les 3 minutes, 4 minutes, moi, lui mettre un carton, non, mais par contre, lui balarguer la faute.
Bah alors, il y avait des joueurs qui, au bout d'un moment, étaient vraiment insupportables. Chaque fois, vous dire, faut que je le recroise, lui encore, il est insupportable.
Oui.
Il y avait qui comme joueur?
Il y en avait quelques-uns. Bon, je voudrais pas les citer parce que.
Bah, si, vous les citez.
Le joueur qui passait le moins de très très loin parce qu'il aimait pas les arbitres, mais je lui en voulais pas, il aimait pas les arbitres. Donc, c'était quelque chose, c'était Lasserre au Paris Saint-Germain. Il aimait pas les arbitres, mais je lui en veux pas pour ça.
On a plein de questions à vous poser sur les joueurs entraîneurs les plus relous au bord du terrain, notamment Flo. Une question à vous poser, ce qu'on disait à l'instant. Reste avec nous, l'after. Reviens dans quelques secondes sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Florent Gautreau, Maxime Chano, Daniel Riolo, notre invité Gilles Vessière, arbitre amateur, mais qui a travaillé au plus haut niveau pendant 15 ans dans sa carrière.
Mais je veux me faire travailler, j'ai arbitré tout simplement. C'était une passion.
D'accord, ok.
On n'a pas
le même travail avec
vous. On n'a pas le même maillot, mais bien sûr.
C'est ça. Et vous n'étiez pas flic, hein, comme beaucoup d'arbitres. Hein.
Non. Comme je dis dans le livre, quand j'arrive dans les années 70-75, il n'y avait que des gens de la SNCF parce que comme ils faisaient que le défraiement et qu'ils payaient pas et qu'ils payaient pas le train, la fédération ils promotionnaient tous les mecs de la SNCF. Donc pour aller prendre une place à un mec de la SNCF, c'était dur.
Quignou était flic.
Quignou travaillait au ministère de l'Intérieur.
Oui, c'est pas.
Oui, d'accord.
Informatique du ministère.
D'ailleurs, Quignou a fait un truc complètement dingo qui ne se faisait pas, c'est le fameux carton au bout de 40 secondes en 86.
Tout à fait.
C'est un truc de fou, ça.
Ouais, parce qu'il a pris la pression, bon. il a pris une grosse pression. Il fallait absolument sortir les cartons rouges parce qu'il n'y en avait pas. Et lui, sur le premier, sur la première faute, un match Écosse-Uruguay, il a mis le carton rouge.
Alors avant qu'on parle, le volet corruption, vas-y.
Juste deux trucs déjà. Ça m'étonne pas qu'il y ait des chefs de gare sur la bord de touche s'ils viennent tous de la SNCF. Ouais. Premièrement.
Mais c'est pour ça qu'on nous a. Mais c'est une. C'est pour ça qu'on a. On nous a appelé les chefs de gare au début.
Ah oui, c'est
parce que les mecs, ils venaient tous de la SNCF. Donc on nous a appelé les chefs de gare.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure sur le cerveau affectif qui fait que vous allez plus vers équipe que vers une autre, je trouve que ça donne une lecture intéressante de la finale du nouveau PSG Arsenal, parce que je pense que l'arbitre il a été agacé par l'attitude des joueurs d'Arsenal et que c'est pas qu'il a tout donné à Paris, mais cet agacement s'est retranscrit dans son arbitrage.
Tout à fait, je suis en phase à 100%. Le gars il en a marre, c'est négatif, il est dans une finale, il voit bien qu'elle est vilaine, il voit bien qu'ils sont. Et puis c'est une erreur de désignation de mettre cet arbitre-là qui est un grand arbitre, on fait pas une finale de Ligue Champions si on n'a pas le niveau, parce qu'il les avait déjà arbitré en demi-finale. C'est hérétique de faire demi-finale et finale quand on a autant d'arbitres de qualité et qu'on a des nations qui sont déjà dehors et qui peuvent amener
et
la neutralité.
Pourquoi il fait cette erreur? C'est l'UEFA.
C'est l'UEFA qui fait cette erreur. Elle est incompréhensible. Ils l'ont mis en difficulté, l'arbitre, parce qu'il les avait déjà arbitrés dans des conditions difficiles contre l'Atletico et il lui redonne une dose derrière. Et moi, je peux vous dire que j'aurais pas voulu être à sa place.
Vous auriez changé une décision et notamment, je pense, la main du Paris Saint-Germain ou alors la faute de Nuno Mendes
ou le penalty.
Alors moi je les ai analysés toutes les deux parce que mon éditeur m'a demandé de le faire et comme on envoie sur Dailymotion pas mal d'infos, moi je suis catégorique. La double main, le footballeur, le Saka, joueur, ouais. il est absolument rien. Pour dire,
ben lui, ouais, tape, ça, on est d'accord, et c'est absurde. Ça aurait été absurde, ça.
Mais c'est dommage, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo qu'on a fait chez mon éditeur, les éditions Bayan, on a quand même une excellente décision de cet arbitre qui prend la décision de ne pas siffler parce que la première faute, on le voit bien, c'est Makuele, c'est ça. Madueke qui prend le bras et après, est obligé de le pousser. Si par bonheur il a la bonne idée de siffler, puisque c'est ce qu'il a vu, puisqu'il n'a pas sifflé, je lui donne cette qualité-là et ce crédit, tout à fait, et bravo à lui. S'il siffle et qu'il met faute en faveur du Paris Saint-Germain, il fait une mastercard. Pourquoi? Parce que tout le monde aurait dit, mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Il y a pénalty de Sida, ça appartient en vrille. Et là, ce bras accroché au début de l'action démontrer que effectivement il avait tout juste et là ce serait vraiment
encore mieux qu'il donne péno PSG en disant c'est vous qui avez non pas péno je veux dire coup franc PSG
bien sûr pour dire, bien c'est, sûr c'est pour bien c'est, sûr ouais, bien sûr si je donne ce sifflet là c'est magnifique
les joueurs, la corruption on... rapidement on va faire tous les joueurs toutes questions on a le temps encore on va jusqu'à minuit Daniel
c'est les joueurs là
est-ce que vous avez déjà été dans votre carrière approché pour changer un résultat?
Oui, une fois. Une fois, j'en parle dans le livre. Moi personnellement, j'étais avancé une fois. Je pars arbitrer un match pour le titre qui n'arrive pas à jouer. Ça fait deux fois qu'il part en bagarre générale. Ils n'arrivent pas à le finir. Il y a des pressions au niveau du monde arabe. Il faut finir le championnat libanais entre Nejmé et Al-Ansar.
Mais comment vous vous retrouvez à faire ce match-là?
Ben parce qu'ils veulent un arbitre neutre, ils veulent un arbitre international de renom, et donc ils m'envoient arbitrer ce match-là. Al-Ansar, c'est l'équipe, c'est le riche, c'est le gouvernement, et Nejmé, c'est le peuple. Donc on a cette différence, et c'est les gens d'Al-Ansar qui nous reçoivent. Et là, effectivement, j'explique bien dans le livre comment il a essayé de nous soudoyer de manière éhontée.
Mais à votre époque, c'était quoi? C'est des montres, des manteaux de fourrure?
Non, là, en l'occurrence, c'était des dollars et il y en avait beaucoup.
Parce que et vous n'avez pas pris?
Bien sûr que non.
Qu'est-ce que tu fais avec des dollars en France?
C'est intéressant. Mais tu vas les changer. Tu vas les changer.
Non, tu vas pas payer ta baguette avec
ça. Ça part d'une époque aussi où les revenus des arbitres étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, donc plus exposés, plus sensibles, peut-être à des propositions. En tout cas, c'est ce que pensaient. Les corrupteurs entre guillemets. Mais il y a un cas quand même dans votre livre. Un exemple que vous citez, c'est l'arbitre Antonio Jesús López Nieto.
Connu, ah, il était super connu, lui.
Super connu, ouais. Qui lui, lors d'un Dynamo Panathinaikos, a été approché, enfin dans sa chambre, il a trouvé des biens en nature, quoi, avant le match.
Des biens en nature.
C'est un mal de lit.
Des biens en nature. Non, non, mais
non.
La vodka, du caviar, deux manteaux de vison, une cassette.
C'est pas ce qu'on appelle
du bien en nature. La légende des manteaux de fourrure. La légende des manteaux de fourrure.
Là, on est sur
des manteaux de fourrure.
Non mais,
on compte la même chose.
C'est un match de Ligue des Champions. C'est un match de Ligue des Champions, on est dans les années
95.
Ouais, on est dans les années 90. Et il rentre du repas d'après-match, lors d'un stage, il m'en parle, López Nieto, il me dit, il nous raconte l'histoire, on est autour d'un café. Et je dis, alors, raconte-nous et tout. Et il nous dit, voilà, je rentre du match. Et j'ouvre ma chambre. Et quand je rentre, sur le lit, il y a deux manteaux de visant, de la vodka, du caviar.
Il y a une petite cassette
au milieu. Et là, il a un truc vraiment incroyable. C'est qu'on n'a pas encore les téléphones portables sur nous. Il appelle ses assistants. Il lui dit, va vite acheter un téléphone. Démerde-toi. Trouve-moi un téléphone. Vous savez, les téléphones jetables qu'on avait, les Kodak à l'époque.
Les appareils photo Kodak.
Et il part donc, un de ses assistants part. Ils vont chercher le délégué. Il touche à rien. Et quand le délégué arrive, entre-temps, il est allé chercher l'appareil photo, il est revenu avec, ils ouvrent la cassette, ils mettent, et là-dedans, il y a $30,000 en billets. Il les met sur le lit, il prend les photos. Là, il a été vraiment incroyable. Il referme tout, le délégué a vu, tout le monde a vu. Le lendemain matin, il rend tout, sauf un manteau. Il garde un manteau pour avoir une preuve, pour avoir une preuve de tout ce qu'il annonçait de ci, de là. Il garde que le manteau, il leur rend tout. Et le match se fait. En plus, Kiev gagne 1-0. Il rentre au pays. Bien sûr, il passe par la Suisse. Il remet le manteau. Il remet l'appareil photo et les pellicules. Et là, la corruption, elle était complètement avérée. Et ce qui me met en colère sur cette affaire-là, c'est que Kiev ne prend que 2 ans de suspension. Et après appel, ils prennent qu'un an. Et je suis intimement convaincu que si les collègues avaient pris la cassette, avaient pris le manteau et quoi, ils auraient été radiés à vie.
Je trouve
qu'il y a un déséquilibre.
Et on pense à tous les arbitres qui ont pris les deux manteaux, par exemple.
Et c'est là qu'on voit l'influence de certains clubs, puisque là, on voit l'influence forte de certains clubs vis-à-vis de certains membres de l'UEFA et de la FIFA. Parce que c'était une sanction qu'on n'a jamais avalée, quoi.
Ah ouais. C'est pour ça que vous ne supportez pas quand Longoria, à Auxerre, à la Baie des Champs, le 22 février 2025, crie au complot, à la corruption. Ça, vous en parlez dans le livre. Ça vous met en grande colère, quoi.
Ouais.
De jeter
le
discrédit sur le corps arbitral français.
Ils peuvent pas jeter le discrédit sur le corps arbitral parce qu'aujourd'hui, il y a une seule affaire dans l'histoire juridique française qui a été prouvée, c'est OMVA. Et la seule personne en France qui est allée en prison pour 6 mois, c'est Monsieur Tapie. Il n'y a jamais eu un arbitre, il n'y a jamais eu un journaliste, il n'y a jamais eu un entraîneur, il n'y a jamais eu personne d'autre. Une seule personne a été prise pour corruption en France. Bon. C'est autour d'un match de football. Donc, quand M. Longoria se permet de s'en prendre aux arbitres, je ne peux pas laisser passer ça. Je le dis haut et fort. Vous trompez, regardez l'histoire de votre club, vous apercevrez que vous êtes un peu plus concerné que tous les gens que vous avez, sur lesquels vous avez jeté l'opprobre.
Il y a une vraie question, c'est ça existe encore les manteaux de vison?
Tu les mets dans quel cadre?
De moins en moins vu et apprécié, quoi.
Ouais,
c'est un peu.
Tu sais que c'est un objet, c'est un truc un peu riche, quoi.
Dans les années 80, 70, 90, 80.
C'est ça. Laisse finir maintenant.
Tu le mettais dans quel contexte, par contre?
Bah, les soirées mondaines, tout ça.
L'hiver, ouais, d'accord. Okay. Oui, bah, l'hiver, oui, forcément, pas l'été.
Pas l'été à Nice, par exemple. Ah ouais. On fait une pause dans un instant. Toutes les questions qu'on vous posait, Daniel, Flo.
J'ai jamais eu de manteau de vision,
Maxime.
Non, c'est plus à la mode.
Et le match plus dingue que vous avez dirigé, le joueur le plus difficile à rencontrer, l'entraîneur. Luis Fernandez dans le parking aussi. Il faut qu'on parle de tout ça rapidement. À tout de suite, sur
RMC. RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Flo, Maxime Chano, Daniel Riolo, et on se régale avec Gilles Bessière, la sortie de son livre Monsieur l'arbitre, édition Vaillant. Alors, plein de questions flash à vous poser. Rapidement, le match le plus dingue que vous avez arbitré, Monsieur Bessière.
Le plus dingue, c'est parce que je finis en sang agressé, c'est Espagne-Yougoslavie à l'Euro. C'est l'Euro de Belgique, donc c'est le
2000.
Voilà, avec ces fatigués de hooligans yougoslaves à l'époque. Et puis
déjà sévi, il faut s'en souvenir, dans le Allemagne-Yougoslavie qui a valu la blessure du gendarme Nivelle à Alençon.
Tout à fait. C'était le même Kaby. Donc là, c'était vraiment un match qui m'a vraiment fait.
Ça, c'est le plus tendu, le plus dangereux.
Le plus tendu, il fait mal. Parce
le plus beau, je sais. Hein.
Le plus beau, c'est la finale.
Ouais. Ah ouais.
À la veste,
ouais.
Liverpool.
Liverpool à la veste.
Incroyable.
Le 5-4.
Elle est toujours dans les 5 plus belles finales de l'histoire de l'UEFA, quand même. Hein. C'est un match extraordinaire. Je l'aurais rêvé, je l'ai toujours dit, je l'aurais rêvé, j'aurais pas pu.
Parce que quand on est arbitre, on a le temps de voir que c'est un beau match.
Ah ouais, là, je craquais tout le temps.
Parce que vous aimiez le foot, vous aimez le foot.
Il y a un truc, c'est
qu'on est là, on trouve ça bien.
Il dit à la mi-temps, ses assistants, qu'il sent que les Espagnols vont revenir. Enfin, ils sont dans la du match.
Je suis au bluff total.
Il y a 3-1 pour Liverpool.
Ouais, il y a 3-1 pour Liverpool. Je suis au bluff total. Je les vois un peu ce truc. Je dis, les gars, vous déconnez, vous n'avez pas vu le même match que moi. Les Espagnols vont revenir. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ils vont en prendre 6. Et je leur fais un intox. Et en 4 minutes, ils reviennent à 3-3. Quoi.
Et Jordi Cruyff, qui m'a.
Jordi à la 88e. Sur le corner, bon, j'ai dit, putain, après le corner, on ne traîne pas parce qu'il y avait une ambiance de fou. Non, mais il y avait une ambiance de fou. Liverpool, c'était chaud, c'était bien. Puis à la baisse, avait fait ce qu'il avait fait le job. Mais 5-4, tu te dis, waouh.
Il y a CSC en plus.
Ouais, puis il y a le truc. Alors, Il y a un truc extraordinaire dans le livre, c'est que sur les 1500 matchs, on m'a demandé de choisir mes 10. J'ai choisi les 10 matchs que j'ai le mieux vécu. Mmh. Et surtout, on a fait un truc, on a fait un QR code.
Oui, c'est ça.
Et les gens vont pouvoir voir les 7 matchs. On a repris des images.
Enfin, c'est génial, ça.
Ils vont pouvoir les 7 matchs et ils vont revoir cette finale, les 3h31 de match. Et elle est d'autant plus extraordinaire parce que le commentateur, il s'appelle Charles Bietri.
Et donc, moi, ça, est-ce qu'il y a un match comme ça où vous êtes passé au travers? Vous êtes sorti, vous dites j'étais nul.
Ouais, deux fois qui m'ont marqué. On fait un match important pour Lens à Lorient. C'est la première fois que je vois Gervais Martel en colère. Je passe à travers. On a un but ballon rentré par rentré. J'aurais bien voulu avoir la goal line technologie. Rentré par rentré, Gervais et Lorient égalisent là-dessus. Et pourtant Lens jouait le titre. Ils étaient 10 fois supérieurs. Lorient descendra et ça tape la barre. Ils rentrent pas. Ils font 1-1. Mais j'étais persuadé. Et Gervais m'attrape. Il me dit Il est jamais rentré. J'ai dit Gervais, c'est pour moi. Et voilà. Et là, j'en ai pas dormi. Et puis un jour, je fais un match à Guignon contre Nancy. Je suis nul. Mais alors, je suis tout à côté. Heureusement, Guignon gagne 4-1 et j'ai pas influencé le match. Mais j'avais tellement été mauvais, j'avais tellement la haine. Olivier Rouillet vient me dire, il me dit, est-ce que vous êtes conscient que vous avez pas été bon? J'ai dit, j'ai pas été bon. J'ai été nul. Il me dit, ça va. Alors, je me fâche pas. Olivier, c'était vraiment un mec super et c'est toujours un mec super. Et tellement j'étais haineux, je suis pris la voiture de Guignon et je suis rentré jusqu'à Nice alors que je devais dormir à l'hôtel et qu'il y avait quand même Guignon-Nice, ça fait quand même presque 850
km. Pour évacuer la colère, il y a du temps. Hein.
Voilà, et j'ai
Vessière, l'entraîneur le plus insupportable.
Ah ben vous le connaissez, c'est pas le plus insupportable, c'est que ça s'est toujours mal passé avec lui, c'est Luis Fernandez.
Il a pris 6 mois de suspension après un match que vous avez arbitré. Il faut le raconter, demi-finale de la Ligue.
Et quand vous le voyez, vous parlez maintenant.
PSG Bordeaux.
Vous faites toujours la gueule ?
Ah non, c'est vite.
Pour raconter l'histoire quand même rapidement.
Alors le balai, l'histoire.
PSG Bordeaux demi coupe de la Ligue. Vous l'expulsez.
Demi-finale Coupe de la Ligue, d'abord non, je l'expulse parce qu'il y a un pénalty. Il y a un pénalty que je siffle parce que Dugarry qui voit arriver Dehue, qui veut le couper en deux, il saute et il tombe. Alors ils partent tous du principe qu'il n'a pas touché, mais heureusement, comme je leur dis, c'est heureusement que vous ne le touchez pas, sinon vous lui cassez peut-être la jambe. Donc je siffle pénalty. Et sur le pénalty, il n'y a pas moyen de le tirer. Mon quatrième m'appelle et il me dit sors Luis Fernandez parce qu'il t'a pourri de ci, de là, t'as un câble, à trottine et vachemine. Et moi, je lui demande de sortir et il me dit moi, ici, il n'y a personne qui me sort. J'ai dit, bon, je veux un truc. Et derrière, il y a Jean-Louis Gasset qui lui dit tu sors pas, Louis, là, qu'elle se faire enculer, tout ça. Et moi, j'ai dit à Jean-Louis Gasset bon, on va commencer par vous. Donc, vous sortez. Mais à l'époque, on ne pouvait pas mettre le rouge.
Rouge hein, il n'y avait pas de rouge. Pour les entraîneurs.
Donc,
c'est ça, hein.
On sort Gasset. Gasset sort. Et puis, Fernandez, il dit mais moi, je ne suis pas Gasset, je ne sors pas. J'ai dit mais vous avez raison. Ne sortez pas. Vous me donnez une bonne idée. Je vais sortir moi. Donc je vais compter jusqu'à 10, je vais appeler mes assistants et à 10, si vous croyez que je ne vais pas le faire, libre à vous, mais à 10 je me casse. Et je commence 10, 9, alors je commence à enlever ma montre, je commence à mettre mon sifflet dans la poste, 7, 6 et à un moment donné, à 4, il y a Gasset qui dit « Louis, sort, il va le faire ce con
et donc, !» Donc il sort. Et alors, ce qu'il faut raconter, c'est qu'il est environ 2h du matin.
Ouais.
Vous êtes ramené par un dirigeant du PSG à votre hôtel.
Non. Déjà, on arrive pour rentrer.
Vous êtes dans le parking du Parc des Princes.
Ouais, d'accord. D'abord, pour arriver ce truc, et puis les CRS arrivent. Monsieur Vessière, ne vous pressez pas, on ne va pas sortir dessus parce qu'il y a le feu. Je m'en doute pas. Donc, vers 1h30 du matin, dans le match, il est fini depuis 22h15, 22h30 quand même. On sort, on arrive, on rentre dans donc, le dirigeant de Paris Saint-Germain qui doit nous ramener à l'hôtel, les deux assistants derrière, moi devant. On sort avec la voiture du Parc des Princes, et là, il y a une voiture qui nous bloque, qui arrive, qui truc. Qui me bloque, là, fort en l'amo, et qui descend, Luis Fernandez. Il y a mon assistant qui me dit je descends, j'en ai plein le cul, je descends, et je lui mets ma
main. Je l'attrape.
Moi, je ferme les portes, il ne bougeait pas, laissez tomber, un truc. Et là-dessus, il commence à palabrer, moi je ne bouge pas, et puis à force, il y a la sécurité du Paris Saint-Germain qui arrive et qui l'amènent à la raison, ils le font rentrer dans la voiture, ils le font partir.
Il a pris 6 mois de suspension derrière.
Ben, on va en commission, et là, ça a été un grand moment que je raconte sur lui.
Tout à fait. Le problème, c'est que Laurent Perpère, qui défendait Luis Fernandez à l'époque, qui était président du PSG, il n'avait pas l'élément. Luis ne l'avait pas dit qu'il vous avait bloqué.
Exactement.
Et Perpère lui dit, mais quoi, t'as fait ça aussi?
Il n'y a pas que lui, il y avait les avocats aussi.
Comment on va faire?
Et vous savez, quand on s'est retrouvé en commission, et le président Riolacci, qui était un mec très très dur, un Corse, un vrai, un tueur, il lui dit, Fernandez était comme ça, le truc, et avec sa sucette, il lui dit en pleine commission, il dit, vous allez pas nous faire un plat pour le parking. Et là, il y a le président qui dit, c'est pas une question de vous faire un plat ou quoi que ce soit, mais en 30 et quelques années de présidence, je pensais que ça, on le voyait en division d'honneur, en promotion d'honneur, mais le voir en demi-finale de Coupe de la Ligue, je pensais pas que je le vivrais un jour.
Joueur le plus insupportable,
Materazzi.
Vous l'avez fréquenté Inter. Comment, Materazzi?
Inter de Milan, mais l'équipe nationale. Voilà.
Ah oui.
Et j'ai un gros sujet sur Materazzi et Zidane, parce que je donne mon avis, qui n'est pas l'avis de tout le monde, sur le coup de boule de
mais Zidane. Mais Materazzi, il était.
Non, mais il faudra le découvrir.
Ce qu'il était dur à arbitrer.
Le but, c'est que.
Il y a plein d'anecdotes.
Mais en fait, il était dur à arbitrer, Materazzi, parce qu'en fait, c'était ce que moi j'ai longtemps appelé, maintenant on n'a plus trop le droit d'utiliser l'expression. Mais c'est une vraie garce, quoi. Il était sur le terrain, il était malin, il était.
C'était un voleur de poule pour moi.
Ouais, c'est ça.
C'était quelqu'un qui se faisait jamais attraper.
Il faut être méga intelligent et fort pour faire ça, mine de rien.
Ah oui, oui.
À chaque époque, on a eu des joueurs comme Van Bommel, ils étaient durs.
On n'arrivait pas à les attraper.
Après, pourquoi Bommel, parce qu'ils faisaient la faute et vous n'arrivez pas à voir qu'ils faisaient la faute.
Dans notre dos.
Juste un mot aussi dans le name dropping sur les arbitres d'aujourd'hui en Ligue 1. Qui considérez-vous comme de bons arbitres aujourd'hui dans la liste? Vous en aviez 2-3 et où ils n'étaient pas bons?
Alors, moi, je vais être très clair, pour moi, ils sont tous bons. Parce que quand il y a 24 000 arbitres en France et qu'il en reste que 20,
le Texier le meilleur, c'est lui qui va au mondial.
Ouais, le Texier le meilleur, mais j'explique pourquoi il est le meilleur.
Et Turpin qui a un boulard.
Attendez, pas de question, répondez juste à ça.
Je vous laisserai découvrir.
Ah ouais, d'accord. On a un teasing.
Comment?
On a un teasing, pourquoi il est bon?
Comment?
Pourquoi il est bon?
Il est bon parce que il va jusqu'au bout de la manière dont il a construit le match. C'est-à-dire, il veut construire un match d'une certaine manière. J'avais un peu cette volonté-là. Il va jusqu'au bout.
D'accord.
Et il met les joueurs avec lui. Il se démerde d'aller mettre avec lui. On peut pas réussir un match sans les joueurs.
D'accord.
Le joueur qui vous a fait la plus grosse impression sur un terrain. Vous avez dit, là, c'est très, très fort.
Ouais, deux joueurs. J'en ai tellement eu de bons. Prenez compte. J'ai fait les plus grands de Ronaldo. Mais moi, Beckham, c'est pour moi un joueur hors norme.
Ah ouais,
c'est rare qu'on dise ça. C'est l'élégance ou c'est quoi? C'est
le rapport au ballon. Et dans le grand Manchester de Sir Alex.
C'est la fameuse anecdote entre le Manchester et le Real Madrid.
Ouais.
Où Florentino Pérez vient et vous dépose un maillot de Zidane, non? C'est ça?
Non, c'est pas ça. L'anecdote, c'est Gentleman Zidane. C'est que, je le raconte dans le livre, c'est mon plus beau moment. C'est mon dernier match au Real. J'avais demandé de finir au Real. On dit en 2004, c'est mon dernier match international. Et, deuxième période, je fais donc en Real Madrid. Je sais plus contre quelle équipe en Ligue des Champions. Il y a un changement. Je passe à côté de Zinedine Zidane. Je dis, Zinedine, c'est mon dernier match. Est-ce que je peux changer ma chemise contre votre maillot? Il me dit, Monsieur Vessière, avec grand plaisir. Donc, voilà. Et le match se termine. Pérez vient à la fin du match. Il me pourrisse de trucs qu'on avait tellement fait de matchs ensemble.
C'est le club.
Non, mais j'ai même une grosse connerie sur le truc que je raconte le match parce que Pérez vient et me dit, Monsieur Vessière, voici un petit cadeau pour tout le grand match que vous avez. On a eu la chance de vivre ensemble et tout. Et moi, je lui dis bêtement, je le regrette encore aujourd'hui. Je dis, président, pourquoi un petit cadeau? Il me dit, Monsieur Vessière, commencez par regarder et que vous verrez que de temps en temps, les petits sont plus importants que les gros.
Ouvrez la cassette.
Et je vous dis, le cadeau, c'était une magnifique parure de stylo Cartier gravé à mon nom.
Pour Zidane, bien sûr, Zidane quand même.
Et Zidane, donc, du coup, l'histoire du moment, j'ai ma chemise, je sors, donc, il y a le champagne, il y a tout ça, c'est un peu la fête, le Real vraiment fait bien les choses. Et en sortant, je vois le préposé, M. Serrano, j'ai dit, avec qui j'avais vraiment
de très bon rapport.
Et je lui dis, il reste encore quelqu'un au vestiaire. Il me dit, oui, il y a Zinedine et il vous attend. Alors que tout le monde était parti. Donc je rentre dans le vestiaire, il y avait Zinedine Zidane qui m'attendait devant son, c'est la photo qu'il y a dans le livre, devant son vestiaire avec un petit sac vert là où on met les petits sacs verts tout très très jute. Il y avait son maillot dedans, moi j'avais un truc. Et j'ai dit, Zinedine, vous permettez? Il me dit, oui, je vous attendais. On s'est échangé les maillots, on s'est assis, on a discuté quelques instants de trucs. Grande classe, c'est un gentleman de très grande classe.
Monsieur l'arbitre, votre livre autobiographie, édition Vaillant, vous allez signer à Boulogne notamment, à Fnac de Boulogne-Billancourt.
Demain, rue de Lamartine, à partir de 17h, on aura l'avant-première, puisque le livre sort au niveau national le 3 juin, et c'est-à-dire demain. Et 17h rue de Lamartine, librairie Lamartine, dans le 16e. Et puis, surtout à la Fnac, j'espère qu'il y aura du du monde parce qu'ils ont vraiment fait de manière à ce
que c'est la librairie de Sarko, mais votre livre est mieux que le sien.
La Fnac Boulogne.
Je suis pas sûr à la même queue devant malheureusement. Mais bon,
la Fnac le samedi à partir de 15h à Boulogne-Billancourt, venez nombreux, ça, on passera un super moment.
Je suis sûr que Julien Cazard a hurlé sur vous quand il était au Parc des Princes. Il arrive dans un instant.
Ah bah lui, il était pour que Louis vous bloque avec la bagnole. Hein.
Il était dans la voiture. Dans un instant, Julien Cazard enchaîné avec Julien Cazard, Jean-Christophe Drouet. Bonne soirée à tous. Merci Gilles Vessière.
Merci beaucoup.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.